Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler du club R2GS avec Gérard Godin. Et pour discuter avec lui, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Hervé Schauer.
Bonjour.
Nicolas Prigent.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Sébastien Juria.
Bonjour.
Xavier Mertens.
Bonjour à tous.
Et moi-même, Johan Ulloa. Alors avant de commencer, nous allons évoquer les différents événements de sécurité et conférences qui vont avoir lieu dans les semaines à venir. Donc Nicolas, la semaine prochaine.
La semaine prochaine, c'est les Assises. Et après, il y a Cyber Security Alliance du 1er au 3 novembre à Yverdon-les-Bains en Suisse. Donc je crois qu'il y a un code de réduction sur notre site web pour les membres, les auditeurs qui ne seraient pas encore inscrits à la conférence.
Oui, alors il n'est pas sur le site web et de mémoire, c'est NLS. -cibsec, donc tout ça en majuscule, 2016.
Ça.
Enfin, essayez, un petit brut de force et ça devrait passer. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre?
Alors, il y a Akelu au Luxembourg, la semaine du 17 octobre, donc c'est le 18, 19 et 20. Moi personnellement j'y serai, et la semaine juste après c'est Brucon bien entendu en Belgique. Les conférences sont le 27-28, mais la semaine commence à partir du 24 avec les trainings, les workshops, etc.
Brucon dont tu es l'organisateur principal encore ou...
Je suis toujours dans l'organisation, tout à fait, oui. Donc c'est toujours le même team et donc je participe toujours, donc je vais pas faire la promotion de, entre guillemets, ma conférence, mais il faut venir, elle est très très bien.
Très bien, il va y avoir également Gréac.
C'est la semaine du 18 octobre, si je me souviens bien.
Donc 18 octobre.
À Grenoble.
Et puis, la fameuse BotConf.
Du 30 novembre au 2 décembre, à Lyon.
Donc voilà pour le point sur les événements et conférences à venir.
Alors, on peut rajouter peut-être le 14 décembre. Les Assises Cyberdéfense et SIEM du club R2GS.
Parfait, merci Gérard.
et encore une voilà. Autre qui est, mais ça c'est au mois de janvier 2017, les 27, 28, 29 à Bruxelles, c'est RECON, donc qui est spécialisé dans le reverse engineering, etc.
Oui, première édition de RECON Europe.
Oui, tout à fait.
C'est notable.
Tout à fait.
Et il y a la journée porte ouverte du Clusif le 13 octobre aussi.
Et un peu plus proche par rapport à certaines confs dans le temps, mais plus loin, il y aura VSEC 2016, visualisation pour la sécurité à Baltimore. Et ça aura lieu le 24 octobre. Les inscriptions sont toujours ouvertes.
C'est cyber souverain, ça, les conférences à Baltimore?
C'est cyber souverain DOD, monsieur, mais c'est accessible à tout le monde.
Ah bah alors, ça change tout.
Et encore une dernière, peut-être, qui est plus Benelux, mais les OWASP Benelux Day sont organisés, donc c'est organisé en tournante aux Pays-Bas, Luxembourg et Belgique. Et donc, cette année-ci, c'est organisé en Belgique les 24 et 25 décembre. Novembre, 24 et 25 novembre.
Et alors, comme notre ami Nicolas fait la promotion des Américains, il y a aussi APPSEC USA le 11 et 14 octobre à Washington. Donc la conférence annuelle OWASP, voilà.
Et alors, besides Lisbonne, le 11 novembre.
Avec du soleil.
Ah ouais, clairement, très belle ville.
Enfin, le 11 novembre, c'est férié en France, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui crament un jour de congé pour aller faire des conférences.
Pour aller à Lisbonne, carrément.
Bah, c'est le vendredi, c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Le vendredi, la conférence, et puis city trip, et tu restes jusqu'au dimanche soir et tu visites la ville le week-end. C'est un bon plan.
Alors Gérard, bonjour.
Oui, bonjour.
Gérard Godin, donc moi je suis consultant indépendant depuis 15 ans sur les thèmes CERT, SOC, cyberdéfense. Donc je suis le président fondateur du club R2GS France et Europe, hein, qui est une fédération de 6 clubs dans les 6 grands pays européens. Donc centré sur les thèmes cyberdéfense et SOC CERT. Je suis le fondateur aussi et chairman de l'entité ETSI Easy, qui a publié tout un tas de standards sur la détection, et donc la série est recommandée dans P10. Et puis j'ai pas mal participé à P10 sur l'élaboration, et je fais des audits de prestataires actuellement, donc voilà.
Le club R2GS, déjà, qu'est-ce que ça veut dire R2GS ?
Alors, ça veut dire recherche et réflexion en gestion opérationnelle de la sécurité. Donc, la gestion opérationnelle de la sécurité, aujourd'hui, bah, ça couvre tous les thèmes CERT, SOC, CIEM, cyberdéfense, hein, de manière plus large. Voilà le scope hein, d'intervention du club R2GS.
Et qui fait partie de ce club ?
Alors, ce club, je peux faire un bref historique. Hein, il a été, on a eu cette idée dans les années, enfin 2008, avec Didier Gras, hein, qui était chez Alcatel à l'époque, puis qui a rejoint un peu de temps après BNP Paribas. Et on a eu l'idée de créer un club ciblé sur ces thèmes-là, hein, qui n'existait pas vraiment en tant que club spécialisé à l'époque. Et d'en faire d'abord un club utilisateur. Donc, à nous deux se sont joints Guillaume Tissier, hein, qui est le directeur général de CIS, et à l'époque, Yvon Klein, hein, qui était le président du CERT-IST. Et donc, avec ces quatre personnes, on a construit un club donc utilisateur. Là, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais c'est d'abord un club utilisateur, même s'il est animé par quelques offreurs entre guillemets donc l'idée c'était de réunir disons les gens les plus mûrs dans ces domaines là à l'époque hein, et ça recouvre très largement une partie non négligeable des OIV. Donc les membres, eh bien, c'est l'ensemble des banques, la plupart des assurances, l'essentiel des opérateurs télécoms, les grands ministères, notamment les ministères sensibles, des sociétés dans le monde du transport, des sociétés industrielles. Donc voilà, donc on va dire que c'est le cœur de la profession hein, sur les thèmes OIV en France. Hein.
D'accord, donc un peu comme Occlusive, vous vous réunissez en groupe de travail pour travailler sur des thématiques ?
Alors absolument, donc il y a ce club fonctionne, bon je dirais après quelques mots parce qu'on a quelqu'un qui est de Belgique hein, mais sur son essor européen depuis quelques années, mais si on se cantonne à la France hein, donc on travaille, on a des groupes de travail hein, donc on en a depuis le début lancé 7 hein, donc les premiers groupes de travail c'était bien définir le domaine, c'était bâtir un modèle de classification des événements, c'était en tirer des indicateurs de sécurité, donc des indicateurs opérationnels, c'était faire des études de maturité, faire quelque chose sur, enfin approfondir tous les aspects de détection, approfondir tous les aspects de réponse aux incidents. Bon, donc sur tous ces différents thèmes, on a des groupes de travail donc qui fonctionnent et qui se réunissent, disons en moyenne une fois par mois. Alors à côté de ça, on fait aussi des matinales hein, qui nous permettent d'élargir donc et de confronter les points de vue avec des invités qui ne sont pas du club R2GS. Et puis on a un grand événement chaque année qui est ouvert à toute la profession, hein, qui s'appelle les Assises Cyberdéfense et CIEM du club R2GS. Et la prochaine édition a lieu le 14 décembre prochain et tous les gens qui, enfin tous les participants ce soir sont invités. Alors, si par malheur une personne ce soir n'était pas invitée, ça voudrait dire qu'elle a échappé à notre fichier. Mais on a un fichier quand même qui est assez large et voilà.
Ah ouais, donc, mais moi je reçois donc c'est super.
Mais Hervé Schauer, depuis le début, on ne vous a pas raté.
Le problème, c'est que 14 décembre, ça, c'est vraiment une des meilleures périodes de business. Donc, j'ai honte, hein, mais j'ai jamais pu me libérer. Vous ne pourriez pas déménager en janvier ?
On y réfléchira pour 2017.
Et donc, en janvier 2018, c'est une très, très bonne nouvelle.
Et est-ce ouvert, par exemple, aux auditeurs de No Limites Sécu ?
Le club, globalement, alors je répète ce que je disais, c'est d'abord un club utilisateur. Hein, donc il y a quelques offreurs, comme je le disais, qui sont les initiateurs au tout début. Moi, personnellement, je peux le dire de manière très directe, hein, j'ai essayé d'ouvrir le club sur beaucoup plus d'offreurs, d'experts, enfin. Et donc ça a toujours été refusé et dans les assemblées générales et le club voulait vraiment rester en dominante utilisateur. Hein, parce qu'il n'y a que 6 offreurs, hein, qui sont les 4 que je vous ai cités, puis qui ont été complétés par, par Eric Caprioli, hein, et la société Atos. Hein. Mais autrement, tous les autres membres qui représentent, donc il y a une cinquantaine de membres aujourd'hui, et on va dire avec 200 personnes hein, qui, dans le club qui participent de près ou de loin aux activités. Donc tous sont, à part les 6 que je vous ai cités, sont des membres utilisateurs.
Et l'événement annuel ?
Alors, l'événement annuel, donc, il est ouvert à tout le monde. Hein, et je pense, enfin, je connais à peu près tout le monde ici. Je crois que tout le monde doit être invité annuellement. Peut-être qu'il y en a, il y a une ou deux personnes là, qui ne le sont pas, mais ça serait un oubli. C'est une journée qui s'appelle, comme je le disais, les Assises, donc où on se concentre sur tous ces thèmes. Les thèmes, donc, c'était, je peux peut-être revenir juste une minute là-dessus. Donc, ça correspond à l'étendue des thèmes que j'ai cités. Mais aussi, donc, l'objectif pour nous, c'était de créer un cadre de référence. Et donc, c'est notamment un modèle de classification, indicateur. Et ce cadre de référence a été standardisé à l'ETSI, hein, il y a 5 ans, puisque moi, j'ai proposé à la direction générale de l'ETSI de créer une entité de standardisation dédiée, consacrée à ces thèmes-là. Et une grosse partie des travaux du club R2GS France ont été repris et sont standardisés et sont aujourd'hui référencés, notamment dans le référentiel PDIS de l'ANSSI. Donc il y a eu beaucoup de chemin de fait hein, depuis 9 ans, puisque les travaux initiaux du club maintenant sont standardisés et maintenant commencent à être utilisés assez largement en Europe. Puisque, donc là je peux en profiter pour dire que le club est présent dans 5 autres pays européens aujourd'hui, hein, ce qu'il a été lancé en Allemagne et Royaume-Uni à travers donc, la création de chapters, hein, de chapitres, en 2012, donc il y a maintenant 4 ans. Et il a été lancé en Italie en 2014, ainsi qu'au Luxembourg et en Belgique. Et donc aujourd'hui on est présent dans 6 pays. On a lancé cette année une entité fédératrice qui s'appelle le Club R2GS Europe, dont je suis le président, et qui est chargé de coordonner les travaux dans les différents pays et de coordonner le réseau. Tous ces travaux, finalement, aujourd'hui, ont reçu un très bon accueil. Donc, d'abord au niveau standardisation, puis ensuite dans un certain nombre de pays européens, enfin ceux que je vous ai cités. Et je peux rajouter qu'on travaille en coordination étroite avec l'ISO SC27, puisqu'on a une liaison officielle entre l'entité là que je préside à l'ETSI et le WG4 de l'ISO SC27. Ce qui fait qu'on est informés les uns les autres. Nous, on informe l'ISO SC27 et l'ISO SC27 nous informe sur ses travaux, sur tout ce qui touche au domaine du club R2GS. Donc, on est vraiment très largement sorti de la France aujourd'hui et c'est ce qui donne du poids également à tout ce qu'on produit.
Mais finalement, je trouve que le sujet de travail du club est un sujet sur lequel il y a quand même pas mal de consultants qui bossent. Ouais. Et vous ne trouvez pas que le fait de se priver de cette population. Alors évidemment, il n'y a pas d'utilisateurs du club, là, de membres du club avec nous, mais il n'y en a pas qui pensent qu'il pourrait y avoir, ce qu'on appelle des personnalités qualifiées ou des gens cooptés pour élargir à d'autres types d'experts sur ce sujet-là, de la journalisation, de l'analyse de journaux, de la détection d'incidents, etc.
Alors Hervé, je suis personnellement pas contre cette idée-là, hein, puisque je répète, je l'ai soumise il y a quelques années, et donc j'ai pas réussi à convaincre la majorité de me suivre dans cette direction, mais je pense que c'est pas définitif, hein, c'est quelque chose qui est pas, enfin à mon avis c'est une idée qui est tout à fait vendable aujourd'hui, d'autant plus qu'aujourd'hui ces thèmes-là ont beaucoup mûri, hein, et sont beaucoup plus larges dans la profession, et effectivement il y a de plus en plus d'experts qualifiés, ça il n'y a pas de problème sur ces thèmes-là.
Et la NSSI participe aux travaux ?
Oui, l'ANSSI est membre observateur, oui.
Et est-ce que les travaux sont rendus publics ?
Alors, comme je l'ai dit, une bonne partie des travaux ont été standardisés. Donc ça, c'est public. Hein, et contrairement à l'ISO, l'ETSI, c'est totalement gratuit. Il n'y a pas besoin de payer pour avoir les standards. Donc il suffit de faire sur Google ETSI, ETSI ou Information Security Indicators, et en haut de la pile de Google apparaissent différents liens, un lien où est un wiki où on a centralisé tout un tas de, on va dire, de tous les standards et un certain nombre de documents complémentaires, où on a un lien directement vers le site de l'ETSI. Donc, je dirais qu'une partie importante des travaux sortent de cette façon-là. Hein. Donc, l'essentiel, le cœur des travaux est sorti de cette façon-là. Hein. Et puis le reste, eh bien, par exemple, à chaque fin d'année, donc à nos assises, Cyberdéfense et SIEM, on publie un certain nombre de choses. Donc, voilà, et on fait un point sur nos travaux et on publie des choses. Mais c'est certain qu'il y a un certain nombre de travaux qui restent dans le club, hein. Enfin, qui sont utilisés par tous les membres utilisateurs, parce que le but, c'est évidemment que ça soit utilisé, mais qui ne sont pas publics.
Est-ce que tu peux dire deux mots sur ces indicateurs ?
Oui, donc c'est 98 indicateurs qui couvrent l'idée, finalement, qu'a préludé à la conception de ces indicateurs, c'était de dire que tant dans le domaine des incidents que des vulnérabilités ou des non-conformités, il fallait un modèle clair, finalement, qui permette d'expliquer assez simplement l'essentiel du panorama, tant côté incident que vulnérabilité ou non-conformité. Et l'idée, c'était aussi... Donc, ces indicateurs, quels sont-ils ? Ce sont des types d'incidents, les principaux types d'incidents. On peut compter ces différents types, et on a un indicateur qui correspond. Donc, par exemple, on a un indicateur sur les attaques d'init service, on a un indicateur sur les malwares PC, les malwares serveurs. Donc, les principaux types, on va dire, d'incidents sont couverts, hein, que ce soit externe ou interne. La même chose pour les différents types de vulnérabilités, et on couvre tout ce qui est comportemental avec un gros, gros accent sur les aspects comportementaux. Tout ce qui est principale vulnérabilité de configuration, vulnérabilité logicielle, vulnérabilité, on va dire, structurelle. Et donc tout ça, ça a mené à 98 indicateurs, donc c'est des agrégats, hein, si vous voulez. Et ce qui est très important, c'est que sur tous ces indicateurs, on a des chiffres statistiques d'état de l'art, puisque moi, personnellement, j'ai bâti un panel international, donc un panel de très grandes entreprises qui sont basées donc aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. Hein. Et ces entreprises me donnent des chiffres statistiques. Et moi, je fais une moyenne et je revends ces chiffres, puisque c'est moi qui ai monté ce panel, aux entreprises qui sont intéressées. Donc ça nous donne, en quelque sorte, pour les principaux types d'incidents ou de vulnérabilités, des chiffres statistiques, alors qui sont des moyennes, hein, avec des écarts types plus ou moins grands, bien sûr. Hein. Dans certains cas, on a une très forte concentration, on va dire, des mesures, ce qui veut dire qu'il y a une véritable notion d'état de l'art statistique. Et donc, ça permet aux entreprises, l'idée forte derrière, c'est d'arriver à une culture quantitative de la cybersécurité, de pouvoir commencer à se benchmarker très précisément sur les principaux types d'incidents ou de vulnérabilités. Donc, c'est ça l'objectif de ces indicateurs.
Mais les gens qui participent au groupe de travail, ce sont les gens qui travaillent dans les SOC des utilisateurs, ou c'est une autre type de population ?
Ceux qui ont adhéré sont les RSSI, hein, donc c'est toujours une décision au niveau des RSSI, mais c'est clair que dans les groupes de travail, c'est pas eux qu'on voit en dominante. Hein. En dominante, on voit essentiellement des gens de CERT et de SOC, hein, c'est clair, c'est quand même la cible. Hein. Il y a parfois des gens qui viennent de la gouvernance, hein, donc des RSSI ou des gens dans leur équipe aussi, hein. Mais clairement, on est vraiment, le cœur, c'est CERT SOC, hein. C'est tout à fait en termes de
logique,
population concrète qui participe au groupe de travail, en dominante, on va dire.
Alors Gérard, quelles sont les autres thématiques sur lesquelles vous travaillez ?
Alors, j'ai dit qu'on s'intéressait beaucoup à comment décloisonner la SSI, c'est-à-dire comment faire en sorte que la sécurité des systèmes d'information, la cybersécurité, concerne l'entreprise dans son ensemble. Alors, il y a des progrès qui sont faits aujourd'hui dans les dialogues, dans la sensibilisation des COMEX, même si beaucoup reste à faire, et dans la façon de s'adresser à eux dans un langage compréhensible par eux. Donc on a fait des interventions au FIC il y a 2 ans avec des directeurs généraux. Hein, donc j'avais co-animé un groupe de travail avec des directeurs généraux sur ces thèmes-là. Et donc on a lancé des pistes justement pour progresser sur la présentation de la SSI, sur la présentation de ses enjeux, donc vis-à-vis des directions générales. Et lié à ça aussi, c'était comment mieux sensibiliser l'ensemble de l'entreprise. On sait que la sensibilisation, ça reste un sujet difficile, hein, où il y a des réels efforts qui sont faits, mais avec des résultats qui sont souvent peu probants. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver une nouvelle piste, d'explorer une nouvelle piste. Et Marc Lémonnerie, hein, du groupe Air France KLM, qui est le groupe CISO du groupe Air France KLM, présentera nos prochaines assises le 14 décembre prochain. Tout ce qu'on fait dans le groupe Air France KLM pour avancer dans ce sens-là, au niveau de l'ensemble du management. Le lien avec CERTSOC, eh bien, c'est mesurer précisément à travers certains indicateurs dont j'ai parlé, mesurer précisément les progrès dans les pratiques sécurité des utilisateurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, complémentaire dans notre esprit, hein, de ce cœur CERTSOC dont j'ai parlé jusqu'à maintenant et qu'on a mis dans les statuts il y a dès le début, il y a 8 ans.
Alors, moi, j'avais une remarque sur ce que vous avez dit tout au début, sur le fait qu'il y avait cinq clubs à l'étranger.
Oui.
Comment est-ce que vous travaillez ? Est-ce que les réunions sont en anglais ?
Oui. Est-ce que les documents... Oui, toutes les réunions sont... Alors, c'est une des difficultés, hein, honnêtement, parce que, par exemple, au Clubber DGS Italie, ils travaillent... Enfin, chaque pays a envie de travailler dans sa langue, donc les Allemands en allemand, les Italiens en italien. Mais il y a un véritable effort pour... Alors, pour les Allemands, c'est plus facile. Pour les Italiens, c'est un peu plus difficile. Mais il y a un réel effort pour faire tous nos documents en anglais. D'ailleurs, dans le Clubber DGS en France... les documents qu'on produit depuis un an sont tous en anglais, hein, pour qu'ils puissent être réutilisés plus facilement et qu'on évite les cycles fastidieux de traduction. Donc, voilà.
Il y a beaucoup d'interactions avec les clubs étrangers. Enfin, quand vous rédigez un document, c'est les Allemands, les Italiens, tout le monde se met sur...
Les interactions se font essentiellement à mon niveau, puisque moi, je visite chaque club au moins 2 ou 3 fois par an. Et l'année dernière, par exemple, on a fait dans le club RDGS Germany, on a fait un séminaire de 2 jours, hein, que j'ai co-animé, donc était en anglais, hein, puisque c'était un séminaire avec beaucoup d'Allemands, mais il y avait aussi d'autres pays européens. Donc là, en gros, si vous voulez, c'est les idées que j'ai citées là, hein, c'est de les explorer, de les approfondir dans les différents pays. Alors, c'est ça qui a permis notamment dans le groupe ETSI ISI, donc ISI, hein, dont j'ai parlé, la plupart des clubs ont un membre au moins qui participe à la standardisation. Donc, ça nous permet d'avoir un vrai retour européen. Alors qu'au début, on avait quand même une dominante française, mais on a réussi à équilibrer avec les autres pays.
Ça ne doit pas être évident, parce que si on fait des indicateurs pour du SOC, du SIEM, je crois que les législations sont très différentes. En particulier en Allemagne, ils considèrent que l'adresse IP est une donnée personnelle, et donc on ne peut pas forcément... Enfin, quand on va mettre en place des proxy web filtrants, des choses comme ça, ce n'est pas du tout évident, quoi.
Oui, alors c'est pour ça que les indicateurs, on les a positionnés... Il y avait un risque, c'est de les positionner trop près de la technique, trop bas. Donc on les a positionner un niveau d'agrégation, hein, je citais tout à l'heure des exemples, hein, malware sur PC, c'est un indicateur, hein, ça peut paraître très général, mais au moins ça a le mérite d'être pérenne dans le temps. C'est très homogène avec, pour ceux qui connaissent, le référentiel Veris, hein, de Verizon, en tout cas pour la partie incident, parce que nous on a toute une autre partie, mais pour la partie incident, c'est à peu près du même niveau d'agrégation et de conceptualisation. Et donc de ce fait-là, on est... assez loin. Enfin, on est à mi-chemin entre, on va dire, des besoins de gouvernance de haut niveau et des besoins, on va dire, très opérationnels de bas niveau. On est à mi-chemin. Et c'est ça qui permet de s'affranchir de ces problèmes-là. Enfin, en tout cas, on a aucun problème dans aucun pays pour que ces indicateurs soient utilisés.
Et donc, l'ANSSI est observateur de vos travaux. Comment vous intégrez avec les référentiels nationaux? Enfin, je ne connais pas ceux du BSI, mais enfin, l'ANSSI, ils ont des choses sur la détection d'intrusions, la réponse aux incidents, etc.
Oui.
Est-ce que PRISE va devenir un référentiel européen?
Ça, je ne sais pas. En tout cas, moi, je connais surtout dans les quatre référentiels là, qui sont sortis. Hein, donc, je rappelle Cloud, PACI, PRIS et PDIS. Moi, je connais surtout PDIS hein, parce que c'est quand même le cœur de ce qu'on fait. Et là, c'est comme je le disais, hein, c'est PDIS référence les indicateurs donc ETSI. Et comme je le disais, on a une volonté, c'est de pousser à la standardisation ce référentiel. Donc, on travaille en bonne harmonie. Hein. Y a pas de...
PDIS référence pas mal de normes à droite et à gauche, ce qui est assez logique.
Ouais,
après, ouais. L'idéal, ce serait que PDIS devienne lui-même une norme européenne.
Oui, on est d'accord. On est d'accord, Hervé.
et c'est ce que vous êtes en train d'essayer de faire?
Oui.
Et il y a un groupe de travail qui fait ça. C'est bête quand même que les gens qui travaillent chez les prestataires de SOC français n'aient pas la possibilité de contribuer. Mais bon, tant pis.
Ah ben ils peuvent. Non. Oui, non, mais là, d'accord, j'ai bien capté le message. Là, je fais un appel. Si certains sont intéressés pour venir travailler à l'ETSI, il y a une possibilité à l'ETSI. Vous savez que c'est beaucoup plus souple que l'ISO, hein, que le SC27. Chacun peut venir travailler. On n'a pas besoin d'être membre de l'ETSI, parce qu'être membre de l'ETSI, ça coûte très cher, hein, Hervé. Même pour un indépendant, ça, j'en sais quelque chose. Mais par contre, il y a une possibilité de travailler, c'est le cas dans notre groupe de travail, hein, donc EASY, en étant membre participant. Et il suffit, il y a une petite cotisation qu'il faut payer par participation, mais ça ne va pas chercher très très loin. Et là, on peut participer directement à nos travaux. Et là, c'est ouvert à tout le monde. Donc moi, si certains sont intéressés pour venir travailler dans ce groupe de travail EASY...
Ah, donc en fait, il y a un groupe de travail qui est ouvert à tous. Celui où il faut travailler.
Ah, faut travailler chez nous. Hein. Ça, dans nos domaines, faut travailler. Et au club R2GS, faut travailler aussi. Hein.
Parce qu'on fait assez peu de cocktails,
on fait beaucoup de groupes de travail.
Dans tous les clubs qui ont des groupes de travail, dont l'objectif est de produire des documents, des référentiels, des taxonomies, etc.
Bien sûr. Donc, n'hésitez pas à m'appeler parmi les participants ce soir ou parmi ceux qui écouteront le podcast. S'ils veulent participer, c'est totalement ouvert.
On rappelle l'adresse web du site?
Alors, vous faites information... Alors, il y a l'ETSI, donc c'est... Bon, j'ai plus l'adresse exactement en tête, l'adresse web, mais vous faites ETSI, ça vous tomberait dessus. Et puis, pour ce qui nous concerne, c'est Information Security Indicators, donc comme EASY, I-S-I. Et vous tomberez dessus immanquablement.
Nicolas Prigent, Sébastien, Xavier, une question peut-être ou remarque?
Ouais, moi j'avais une petite question en fait au niveau des indicateurs. Finalement, est-ce qu'il y a des indicateurs qui sont un peu originaux, des choses auxquelles on s'attendait pas du tout au début et qui en fait s'avèrent être des indicateurs pertinents, par exemple?
Je sais pas, c'est peut-être à vous de me le dire. Cette liste d'indicateurs, il y a une fiche recto verso qui est disponible hein, sur la page wiki, hein, Information Security Indicators, il y a une page wiki, et il y a un datasheet hein, qui résume les deux, qui résume sur deux pages les 98 indicateurs. La couverture, tout le monde nous le dit, hein, la couverture est de quasiment 100% hein, de cet ensemble d'indicateurs, enfin en tout cas des choses qui semblent importantes, en tout cas pour les entreprises qui les utilisent. Je sais pas, des choses auxquelles qui ont intéressé qu'on n'avait peut-être pas, c'est par exemple savoir dans les incidents globalement, est-ce qu'ils exploitent des vulnérabilités basiques? Est-ce qu'ils exploitent du zero day? Est-ce qu'ils exploitent des vulnérabilités de configuration? Donc on a des statistiques là-dessus. Et quand on s'aperçoit que les pourcentages d'incidents exploitant des vulnérabilités basiques, hein, mais ça, je crois que la profession le sait très bien, hein, les pourcentages sont très importants, et ça, ça a décidé certaines entreprises à mettre un peu plus la vapeur sur la gestion des vulnérabilités, en tout cas celles qui sont considérées comme essentiel ou des non-conformités de base.
Oui, gestion des mises à jour, des choses comme ça, et peut-être aussi la formation des utilisateurs, éventuellement, dans certains contextes.
Voilà. Alors, absolument, il y a une vingtaine d'indicateurs qui correspondent à des non-conformités comportementales, donc des déviances par rapport aux bonnes pratiques, hein, on va dire, mais là, au niveau comportemental. C'est clair que il y a des statistiques. D'ailleurs, les SOC le savent bien. Les SOC qui se concentrent là-dessus, hein, qui se concentrent sur l'hygiène informatique, savent très bien que c'est d'abord là où ils trouvent énormément d'incidents ou de non-conformités. Donc là, il y a beaucoup à faire, et les entreprises sont souvent surprises par le niveau des déviances, hein, qu'il y a chez elles. Parce qu'avant, elles ne regardaient pas vraiment dans le détail. Et quand elles commencent à regarder vraiment, avec les bons outils, elles sont surprises.
Moi, j'ai une question par rapport justement à ces statistiques. Pourquoi vous ne faites pas une publication annuelle de cette étude que vous pouvez faire, comme le font certains, je ne vais pas les nommer, mais on a la DBIR de Verizon et d'autres qui nous servent régulièrement. Ça pourrait être plutôt intéressant pour les gens qui font de la formation, de la sensibilisation, oui, d'utiliser vos études. Parce que c'est des
études... Surtout d'avoir quelque chose de français. Ça,
voilà,
c'est vraiment un plus.
C'est des études qui viennent du terrain directement.
Voilà, ouais. On voit avec les études du CLUSIF, le fait d'avoir des chiffres français, ça, c'est génial.
Je suis d'accord avec ça. Alors, pour l'instant, moi, je l'ai mis en place parce que je voulais démontrer la pertinence et la faisabilité de la notion de chiffres statistiques d'état de l'art. Parce que certains contestaient ça. Ils disaient, comment est-ce possible d'avoir des chiffres moyens? Donc ça, je l'ai démontré, et maintenant, les entreprises du Club RDGS sont convaincues que c'est vraiment pertinent, hein, que ça donne une dimension qu'on n'avait pas avant, hein, sur l'aspect probabilité d'incident ou statistique ou fréquence. On est en réflexion là-dessus. Il y a deux ans, on s'est dit, ça serait bien que le Club RDGS, finalement, le fasse lui-même, avec ses adhérents, et publie ses chiffres, comme le fait le CLUSIF, hein. Alors, ça a été jugé comme un petit peu prématuré, pas mûr, mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que c'est une réflexion qui est en cours, parce que moi, de toute façon, ça me prend beaucoup de temps, même si je les vends et que ça me fait un business propre, on va dire, c'est quand même très très lourd, et en termes, en plus de crédibilité d'impact, si une association reconnue le faisait, ça aurait certainement encore plus d'intérêt, on va dire, hein. Donc c'est une réflexion qui est en cours actuellement.
Moi, j'avais une question, mais plutôt pour les sociétés qui débutent dans ce domaine. Donc apparemment, si je comprends, les membres du club sont des personnes qui ont déjà une solution en place, qui l'utilisent, qui est déployée et qui cherchent à l'améliorer. Mais quel pourrait être le bénéfice pour une société qui désire partir de zéro ou qui a vraiment un projet, ou parce que pour des raisons de compliance, on l'oblige à installer une solution log management, CM, etc. Quels pourraient être les bénéfices de en joignant ce club? Est-ce que vous proposez également, des choses simples? Comment définir les use cases? Comment déployer les outils sans passer dans des configurations, en parlant d'outils commerciaux? Mais quels sont les bénéfices pour un newcomer, si je pourrais dire?
Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup insisté sur le fait que c'était des entreprises mûres, hein, au départ, mais là on a des entreprises qui sont justement qui commencent à nous rejoindre, Parce que finalement, à travers, j'ai deux éléments de réponse. À travers les statistiques dont je parlais, c'est clair que, enfin, on parle beaucoup de quick win, hein, mais c'est quand même un SOC. S'il détecte rien, c'est assez embêtant, hein, parce que ça coûte, c'est quand même pas gratuit. Et s'il détecte pas grand chose, je dirais que l'entreprise se lasse. Enfin, on en parlait il y a 10 jours, hein, donc dans l'émission précédente. Hein, mais un SOC, si c'est pas entretenu et si ça vit pas, et si ça s'améliore pas et si ça pas ça produit pas des choses, ça peut finir par disparaître. Tout simplement. Donc, aller chercher exactement ce qu'il faut, ça permet déjà d'aller directement au but. Et donc, si on sait ce qu'on cherche, on a quand même plus de chances de le trouver. Par ailleurs, le club, dans ses groupes de travail, a travaillé sur, par exemple, on avait réuni une trentaine d'experts de SOC, hein, alors des experts chez des utilisateurs, hein. On a travaillé pendant un an et demi sur les use cases pour détecter. On a sélectionné sur les 98 types d'événements, là, enfin indicateurs, on en a sélectionné 20. Et le groupe de travail a dû, on a fait une capitalisation d'expérience sur des use cases, justement, comment chacun, avec quel type d'outil, avec quel use case, et aussi on s'est posé la question de l'efficacité. Pour détecter ces 20 types d'incidents qu'on avait sélectionnés. Donc, quelqu'un qui rejoint le club comme utilisateur sait quoi regarder et chercher en priorité et a un ensemble de use cases pour essayer d'être efficace très vite. Voilà la réponse qu'on pourrait donner à un newcomer.
Ça va. Et autre question vis-à-vis du modèle des MSSP, donc Managed Security Services Provider. Quelle est la position du club vis-à-vis de ces prestations de services qui sont, bon, allez, par expérience, j'ai déjà eu des contacts avec des clients qui voulaient partir vers ce modèle parce qu'ils n'ont pas les ressources en interne pour gérer le déploiement de la plateforme. Mais ce qu'on se rend compte, on se rend compte très vite que le modèle MSSP, en fait, ne connaît pas le business de son client et les alertes qui sont remontées pour le MSSP ont souvent une valeur qui est très très basse, c'est vraiment très très light.
Je ne peux qu'abonder dans ce que vous dites. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on était, je crois, assez d'accord avec ça il y a une dizaine de jours quand on a parlé du SOC V2 et qu'on a parlé de PDIS, donc du référentiel de l'ANSSI. C'est que on pense que ça tire vers le haut la profession et que ça va forcer la MSSP à s'inquiéter beaucoup plus des besoins de leurs clients, hein, à se poser des questions sur le business, sur les risques, et à essayer de détecter des choses qui correspondent beaucoup plus au risque objectif, au risque résiduel objectif de leurs clients. Donc,
on fait du sur-mesure pour chaque client et ça coûte très cher.
Pardon, j'ai pas entendu.
De ce fait, on fait du sur-mesure pour chaque client et ça coûte très cher. On mutualise finalement de moins en moins de choses.
Ça dépend. Ça dépend parce que y a deux choses. Hein. Il y a le fait de partir d'une compréhension client, mais il y a un tronc commun. Faut quand même pas se leurrer. Hein. Il y a un tronc commun qui est extrêmement important, quels que soient les secteurs d'activité économique. Et puis, on peut aussi préconiser d'aller chercher là aussi, demander au MSSP d'aller chercher là où il y a des choses, dont on sait qu'il y a des choses. Et en fait, ça rejoint la réflexion sur SOC 2.0. Comment faire en sorte qu'un SOC vive, eh ben c'est comment faire en sorte qu'un MSSP produise plus de valeur et tire vers le haut, apporte vraiment quelque chose à son client. Mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de déceptions sur les MSSP, hein, et sur ce qu'ils produisaient, hein, c'est clair. C'est le rapport qualité-prix n'était pas suffisant.
Ouais. Mais et alors une dernière question, mais qui est plus, enfin pas personnelle, mais étant basé en Belgique, je cherche des informations sur le chapter belge et je ne trouve absolument pas. Donc sur la page du club r2gs.eu, il y a local chapters, mais toutes les pages sont vides. Si je veux contacter le chapter en Belgique, comment je fais?
Eh bien, il faut appeler Ulrich Zeldeslarks, qui est...
Ah, mais je le connais. Alors, c'est lui qui
voilà,
s'en occupe.
C'est le patron de LSTI, hein, qui est bien connu en Belgique.
Oui, je le connais.
Connu dans
je
les
le connais.
Cercles
oui,
européens.
Oui.
Qui est, il faut l'avouer, pas très actif. C'est probablement le chapter le moins actif des six. Donc, on a une réflexion aujourd'hui sur le club R2GS Belgique, savoir si... parce que le club Luxembourg, enfin, c'est qui est animé par Christophe Bianco. Hein. Christophe Bianco, c'est l'ancien patron Europe de Qualys, hein, qui est bien connu.
Mm-hmm, mm-hmm. Oui, je le connais aussi.
Donc,
ouais.
Il est très actif aussi sur la Belgique. Donc, voilà, on est en train de réfléchir sur Belgique-Luxembourg en ce moment.
Ok, ouais. Ça va. Mais je contacterai alors les personnes. Ça va, merci.
Pardonnez-moi, mais enfin Christophe Bianco, que j'apprécie énormément. Et qui m'a permis de participer à sa dernière manifestation au Luxembourg. Ah, Christophe Bianco ouais. Est un fournisseur.
Ah mais moi je parlais du club R2GS France. Hervé, vous pouvez tenter votre chance au Luxembourg.
Mais bien entendu, je suis membre du CLUCIL, je suis membre de toutes les associations luxembourgeoises. Je vais de ce pas adhérer au club R2GS Luxembourg.
Ben voilà. C'est pas une plaisanterie, hein. Je suis sérieux. Après, chaque club a, on a simplement, je précise quand même au niveau des clubs en Europe, on a, une charte de fonctionnement et chaque club est libre de faire ce qu'il veut hein, sur ses membres, mais il doit avoir au moins 70% d'utilisateurs hein, pour garder quand même l'esprit qui prévaut en France. Hein. Pour garder cet esprit au niveau européen. Mais chaque chapitre fait ce qu'il veut, à part cette règle.
Alors Gérard, si nos auditeurs souhaitent participer à l'événement annuel donc du 14 décembre, comment est-ce qu'ils peuvent faire ?
Alors ils peuvent m'envoyer, je crois que le mieux c'est qu'ils m'envoient un mail à gerard.godin2@wanadoo.fr et on leur enverra une invitation.
Donc Gérard, un grand merci d'avoir accepté notre invitation.
Eh bien, c'était un plaisir pour moi.
Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. À bientôt.